Je vous rappelle donc que nous continuons notre étude du livre des rois. Et sur cette première planche, vous avez le plan que nous avions retenu, un plan relativement simple, en cinq grandes parties. Et nous avions entamé la dernière fois la partie centrale, qui est la plus longue également, qui déroule le ministère prophétique d'Élie et d'Élisée pendant les règnes de la maison d'Akab. Et vous avez ici une présentation du plan de la partie d'Élie qui couvre donc du chapitre 17 jusqu'à 2 Rois, chapitre 1, verset 18. Alors je rappelle que la division en deux livres n'est pas du tout inspirée et elle est même très malheureuse puisqu'elle est au milieu de l'histoire d'Akazia. C'est la division la plus pourrie à laquelle on puisse penser, mais elle est comme ça. Voilà. Et la geste d'Élie se divise, me semble-t-il, en sept parties, et qui d'ailleurs se correspondent les unes aux autres. J'aurai l'occasion de revenir en particulier sur la partie entre 2 et 2 primes, et cette matinée, nous couvrons donc les parties 3, 4, 3 primes et 2 primes, à savoir les deux guerres que Akab mène avec la Syrie, au chapitre 20 et au chapitre 22, et puis le chapitre 21, avec Élie et Akab, la mort de Naboth et le jugement sur Akab. Alors, vous remarquerez que j'ai placé ce chapitre 21 au centre de la partie qui concerne Élie, parce qu'il me semble qu'on a des correspondances assez frappantes, et ces correspondances sont marquées par le fait que Élie est appelé Élie le Tishbite, de façon singulière au chapitre 17, au chapitre 1er du livre des rois, de deux rois, et au chapitre 21. Nous avons donc ces trois mentions, sinon ailleurs il est appelé Élie tout court. Mais on rappelle son origine, Élie le Tishbite, et ce n'est pas sans doute sans pertinence, peut-être que j'y reviendrai. Et puis vous voyez ces liens avec un voyage interrompu dans les deux côtés, une ligne interrompue mais une autre qui continue. Ici au chapitre 20 et 22, on a deux chapitres qui encadrent le 21 avec des prophètes, mais c'est pas Élie, et on verra sans doute pourquoi aussi, et que il y a le feu du jugement qui tombe dans la première partie et dans la dernière partie également. Alors peut-être pour préciser les choses et mettre un peu les éléments dans leur contexte, convient-il de regarder les deux généalogies. Alors les choses sont d'autant plus compliquées que, à la fois dans la généalogie des rois de Israël à gauche, ou dans la généalogie des rois de Juda à droite, on a des gens qui s'appellent à peu près du même prénom, du même nom. On a un Akazia des deux côtés, un Joram des deux côtés, puis qui sont plus ou moins contemporains. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Alors déjà, on peut voir qu'il y a eu cette union entre Athalie et Joram, donc le fils d'Akab et le fils de Josaphat, dont il va être pas mal question dans les chapitres que nous évoquons. Et donc, cette union a sans doute conduit à ce qu'ils aussi ils unissent les prénoms, puisque c'est à peu près les mêmes noms à droite et à gauche. Enfin, voilà. Donc, juste peut-être que vous ayez cela en tête, et là, nous couvrons donc une large partie de l'histoire de la fin du Xe siècle avant Jésus-Christ et d'une partie du IXe siècle. Parce que là aussi, c'est pas toujours très clair d'avoir la chronologie. Vous avez en haut la frise des rois d'Israël avec ce qu'on appelle la maison d'Omri. Donc Omri, son fils Akab, son petit-fils Akazia et aussi son petit-fils Joram, parce que ici vous aurez remarqué que Joram est le frère d'Akazia, ce n'est pas son fils, parce que Akazia est mort sans enfant. Et puis ici, en rouge plus foncé, vous avez la maison de Jéhu qui va succéder à la maison d'Omri avec Jéhu, Joakaz et Joas. Et puis en dessous, vous avez la lignée des rois de Juda, qui est interrompue par l'usurpation du règne par Athalie. Athalie, sympathique fille de Akab, la succession des rois. Et ici, le ministère des deux prophètes. D'abord, le ministère d'Élie, qui a lieu pendant le règne d'Akab et aussi d'Akazia. Et puis, le règne d'Élisée, qui s'étend sur une période beaucoup plus longue, puisqu'on est sur presque 60 ans pendant le règne d'Élisée. Donc Élisée, quand il a été appelé par Élie, était un jeune homme et il est mort sans doute à un âge très avancé puisque il va jusqu'au règne de Joas, le petit-fils de Jéhu. Et la période qui nous concerne, nous, elle est relativement courte, puisque c'est un peu plus de 3 ans, c'est chapitre 20 à 22 du premier livre des rois. Et donc, qui est sur la scène à ce moment-là? Sur le trône d'Israël en Samarie, c'est Akab. Sur le trône de Juda à Jérusalem, c'est Josaphat. Et le prophète, c'est Élie, mais aussi les deux autres prophètes que j'évoquais. Alors, où nous en étions-nous arrêtés? Philippe nous a présenté la dernière fois les chapitres 17 à 19 du premier livre des rois, ce qui correspond, à mon sens, à la première partie de cet geste d'Élie. Et à la fin de cette partie, au chapitre 19, une fois qu'Élie est arrivé jusqu'en Horeb, qu'il a eu la voix douce et subtile, etc., Dieu a donné une commande à Élie, et l'Éternel lui a dit « Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Premièrement, une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Deuxièmement, tu consacreras aussi par onction Jéhu, le fils, petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Troisièmement, tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat d'Abel-Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée d'Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. » Et si on regarde qu'est-ce qu'a fait notre ami Élie, eh ben, il n'a pas oint Azaël comme roi de Syrie. Il faut attendre le chapitre 8 du second livre des rois pour que Élisée envoie quelqu'un oindre Azaël. Quant à Jéhu, pareil. Là aussi, ça n'a pas eu lieu par Élie. C'est aussi Élisée, bien plus tard, au début du chapitre 9 du second livre des rois, qui va oindre Jéhu comme roi sur Israël. En revanche, ce que Élie a fait tout de suite, et ça c'était ce sur quoi Philippe s'était arrêté à la fin de son message, c'est que tout de suite Élie a oint Élisée pour être prophète à sa place. Et quant à ces 7000 hommes auxquels l'Éternel fait allusion, eh bien nous allons en avoir des exemples juste dans le chapitre qui suit, le chapitre 20 de ce livre des rois. De sorte qu'il ne faut pas nous étonner de passer de ce chapitre 19 centré sur la personne d'Élie à un chapitre 20 où Élie disparaît complètement et où il est question d'un prophète, il est question de fils de prophète, il est question de personnes qui, en dehors d'Élie, eh bien, sont aussi restées fidèles et peuvent aussi avoir un message vis-à-vis d'Akab. Et c'est une réponse implicite de Dieu à ce que Élie avait dit quand il avait affirmé avec pas mal de prétention, je suis resté, moi seul, fidèle. Eh bien, non. La preuve, c'est que Dieu va utiliser comme moyen, pas Élie qui n'a pas l'exclusivité de la parole de Dieu, et personne n'a l'exclusivité de la parole de Dieu, personne, pas plus Élie qu'un autre. Il va utiliser un prophète anonyme. Au chapitre 22, il va utiliser Michée, le fils de Jimla, qui lui aussi est un prophète tout autant qualifié qu'Élie. Et donc, c'est une réponse, me semble-t-il, textuelle à cette affirmation qu'Élie avait présomptueusement donnée, qu'il était, lui, tout seul, le seul fidèle. Et donc, la leçon immédiate que nous pouvons en tirer, c'est que ne nous croyons jamais les derniers fidèles. Peut-être que c'est une tentation qui a pu avoir. Je vais donc passer assez rapidement sur ces chapitres, mais je vais m'arrêter un petit peu plus sur le chapitre 21 que nous aurons l'occasion de lire in extenso, mais je voulais quand même donner quelques éléments sur les chapitres 20 et 22. Donc sur le chapitre 20, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons un prophète et Akab, la guerre avec la Syrie et l'annonce de la mort d'Akab. Donc au chapitre 20, que se passe-t-il? Eh bien, ça se passe très très mal au départ, parce qu'on a le roi de Syrie, Ben-Hadad, qui envoie un message à Akab qui lui dit « Ton argent et ton or sont ma propriété, tes femmes et tes plus beaux enfants m'appartiennent. » Akab avait 70 fils, hein, je rappelle. Donc il voulait trier en plus. Le roi d'Israël répondit « Comme tu le dis, mon seigneur, le roi, je t'appartiens avec tout ce que j'ai. » Réponse sidérante d'Akab, qui s'écrase complètement, mais quand même, il se dit après il appelle tous les anciens du pays et il leur dit « Sachez bien et comprenez que cet homme nous veut du mal. En effet, il m'a déjà réclamé mes femmes et mes enfants, mon argent et mon or, je ne lui ai rien refusé. » Tous les anciens et tout le peuple dira à Acab « Ne l'écoute pas et ne cède pas. » Et donc, la leçon morale que je voudrais poser en fil rouge, plutôt en fil noir, sur l'ensemble de ces chapitres, c'est ce que j'ai appelé les mauvaises influences. Les mauvaises influences. Et là, on voit que Acab, qui pourtant avait eu la démonstration de la puissance de Dieu juste avant, rappelons-nous, Élie qui fait s'effondrer le feu du ciel et qui consume tout l'autel et l'eau qui était autour, etc. Eh bien, Acab, quand Ben-Hadad lui envoie cette missive assez combinatoire au demeurant, eh bien, il est tout tremblant et il s'écrase complètement immédiatement. Bon, il faut dire que ce n'était pas si simple que ça, puisque l'ami Ben-Hadad, il était accompagné de 32 rois. Donc, il y avait du monde à côté de lui et il montrait les muscles. Et au lieu de consulter l'Éternel, au lieu d'appeler Élie, au secours, Élie, j'ai besoin de toi, non. Il appelle les anciens du pays et leur dit, voyez, cet homme nous veut du mal. Et les anciens donnent un conseil, mais on remarque que l'Éternel est complètement en dehors du panorama. Et donc, c'est Dieu qui spontanément, dans sa grâce, va prendre l'initiative et un prophète, on ne connaît pas son nom et on ne le connaîtra jamais, qui s'approche d'Acab, le roi d'Israël, et qui lui annonce « Voici ce que dit l'Éternel ». Et il va y avoir deux batailles successives. Et à la première, donc, le prophète dit « Afin que tu connaisses que l'Éternel est Dieu ». Et à la seconde, c'est que vous connaissiez, vous sachiez que l'Éternel est Dieu. Donc il y avait à la fois et Acab et le peuple du pays, en particulier ces anciens qui donnaient ce conseil, hein, les anciens et tout le peuple, qui ont à comprendre qu'effectivement il y a un Dieu. Et alors on a ces délivrances extraordinaires qui nous sont révélées dans ce chapitre 20 du le chapitre 20 de Un roi, où les Syriens et leurs 32 alliés ont beau être comme des sauterelles partout, eh bien, les pauvres Israélites remportent une victoire totalement inespérée, à la fois dans les montagnes et puis la deuxième fois dans la plaine, parce que la première fois, les Syriens se disent « Bon, ils ont remporté la victoire dans les montagnes parce qu'ils ont un dieu des montagnes. Et donc, on va faire la seconde bataille dans la plaine, parce que comme ça, nous, on est plus des guerriers de la plaine. Mais que ce soit dans les montagnes ou sur la plaine, eh bien, Dieu est au-dessus de tout. Et c'est ce qu'il veut démontrer aux Syriens, certes, mais d'abord et avant tout, et à Acab, et au peuple, avec ces deux victoires extraordinaires. Mais le chapitre se termine mal, parce que Ben-Hadad donc, est complètement écrasé, et les serviteurs de Ben-Hadad lui disent « Écoute, là, on s'est fait rétamer, mais ce qu'on sait, c'est que les rois d'Israël, ils sont gentils, et donc on va aller plaider. » Et ils disent « Ton serviteur Ben-Hadad, donc ils vont voir Acab, et puis ils lui disent « Ton serviteur Ben-Hadad te demande de lui laisser la vie sauve. » Et Acab répond, là encore, réponse sidérante, spontanée, il ne demande pas conseil à qui que ce soit. Hein. « Est-il encore en vie ? Il est mon frère. » Quand on voit ce que le frère avait demandé au début du chapitre, c'est une drôle de fraternité. Quand il voulait lui shipper sa femme, son or, ses meilleurs enfants, etc. Ces hommes, ils virent un bon présage. Ben oui, effectivement. Et ils s'empressèrent de le prendre au mot et de dire « Ben-Hadad est ton frère !» Et il dit, donc Acab dit « Allez-y, amenez-le » Et Ben-Hadad vint vers lui, et Acab le fit monter sur son char, et Ben-Hadad lui dit « Je te rendrai les villes que mon père avait prises au tien, et tu pourras faire du commerce à Damas comme mon père l'avait fait à Samarie. Quant à moi, reprit Acab, je vais te laisser partir, après avoir conclu une alliance avec toi. » Et il fit alliance avec lui, et le laissa partir. Donc, on voit cette mansuétude de la part d'Acab qui peut paraître facialement quelque chose de bien, mais qui n'était pas du tout ce que le prophète lui avait demandé de faire. Et donc, il y a un autre prophète qui va venir et dire au roi, fils des prophètes, « Voici ce que dit l'Éternel, parce que tu as laissé échapper l'homme que j'avais voué à la destruction, ta vie sera échangée contre la sienne et ton peuple contre le sien. » Le roi d'Israël repartit chez lui, triste et irrité, et il arriva ainsi à Samarie. Donc on voit l'attitude de Akab qui se laisse influencer par celui qui voulait tout lui prendre. Et donc, est-ce que c'est un syndrome de Stockholm avant la lettre? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que c'est quand même assez particulier de voir cette attitude d'Akab. Et surtout, ça nous montre que parfois, nos réactions spontanées, eh bien, ne sont pas forcément ce que Dieu souhaiterait de notre part, et qu'il convient d'abord et avant tout de regarder et de demander qu'est-ce que nous devons faire ici et maintenant. Je vais maintenant, parce qu'il est important, me semble-t-il, de ne pas simplement parcourir les chapitres, mais aussi de lire du texte de la parole de Dieu, lire avec vous le chapitre 21 du Livre des Rois. Et je vais le lire dans la version second 21. Donc ce livre, ce chapitre qui est particulièrement important puisqu'il se situe au centre des récits qui concernent Élie. Après ces événements, voici ce qui arriva. Donc après ces événements, il faut bien voir, hein, c'est donc le narrateur relie ça au chapitre 20, à Akab et à la prédiction qui vient d'être faite que ben, Akab va perdre la vie. Un certain Naboth de Jisréel avait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab ordonna à Naboth, « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Akab, « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Akab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jisréel. « Je ne te donnerai pas d'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jisréel et que je lui ai dit « Donne-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit « Mais c'est bien toi maintenant qui es le roi d'Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. Oh, c'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jisréel. » Elle écrivit alors au nom d'Akab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi, puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ses lettres. « Proclamez un jeûne, placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui deux vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis, conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. » Les hommes de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui étaient ses concitoyens, agirent comme Jézabel le leur avait fait dire. Ils se conformèrent à ce qui était écrit dans les lettres qu'elle avait envoyées. Pour proclamèrent un jeûne, placèrent Naboth au premier rang du peuple, les deux vauriens vinrent se mettre en face de lui, témoignèrent contre Naboth devant le peuple, en prétendant qu'il avait maudit Dieu et le roi, puis ils le conduisirent à l'extérieur de la ville et le lapidèrent jusqu'à ce qu'il meure. Ils firent alors dire à Jézabel, « Naboth a été lapidé et il est mort. » Lorsque Jézabel apprit la nouvelle, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jisréel, qui avait refusé de te la céder pour de l'argent. » En effet, Naboth n'est plus en vie, il est mort. Dès qu'il apprit que Naboth de Jisréel était mort, Akab se leva pour descendre à sa vigne afin d'en prendre possession. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. « Lève-toi, descends à la rencontre d'Akab, le roi d'Israël, qui se trouve à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui annonceras, « Voici ce que dit l'Éternel, n'es-tu pas un assassin et un voleur ?» Et tu ajouteras, « Voici ce que dit l'Éternel, à l'endroit même où les chiens ont léché le sang de Naboth, ils lécheront aussi ton propre sang. » Akab dit à Élie, « Hein, tu m'as donc retrouvé, mon ennemi ?» Élie répondit, « Je t'ai retrouvé parce que tu t'es toi-même vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Je vais faire venir le malheur sur toi. Je vais te balayer, je vais exterminer tout homme qui appartient à Akab, qu'il soit esclave ou libre en Israël. Je vais rendre ta famille pareille à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Baïcha, fils d'Akija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. » L'Éternel dit, parle aussi à Jézabel. Il dit, « Les chiens mangeront Jézabel près du rempart de Jisréel. Le membre de la famille d'Akab qui mourra dans la ville sera mangé par les chiens, et celui qui mourra dans les champs sera mangé par les oiseaux. » Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Akab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, sa femme Jézabel l'y poussant. Il a agi de manière la plus abominable en suivant les idoles comme le faisaient les Amoréens, ces peuples que l'Éternel avait dépossédés devant les Israélites. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Achab déchira ses habits, se couvrit d'un sac à même la peau et jeûna. Il dormait avec ce sac et il marchait tout lentement. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbite. « As-tu vu qu'Achab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. » Je pense que cette histoire est connue de quelques-uns d'entre nous. Ça fait partie des histoires qu'on raconte à l'école du dimanche, mais elle est particulièrement significative, me semble-t-il, du ministère que Dieu avait confié à Élie le Tishbite. Tout d'abord, si je veux en tirer toujours une leçon morale par rapport aux influences, mauvaises influences, eh bien nous voyons l'influence de Jézabel sur Achab. Et c'est ce que l'auteur du Livre des Rois mentionne de façon très claire quand il dit que sa femme Jézabel l'y poussait. C'est sûr que Achab a sa responsabilité personnelle, mais il semble que l'influence de Jézabel, qui, je le rappelle, était une sidonienne, donc venait pas du peuple de Dieu, ait été majeure pour pousser Achab à mal faire. Et donc cela nous montre que nous pouvons être aussi sensibles à l'influence potentiellement négative de certains de nos proches, parce que on n'ose pas aller contre, parce que on lui laisse un peu les clés. C'est quand même assez frappant dans ce récit de voir que Achab est tout triste, mais Jézabel lui dit « Mon nounours, je vais m'occuper de toi puisque tu boudes, et puis ça va bien se passer. » Et donc il lui laisse les clés. On voit bien que d'après, Dieu fait bien porter la responsabilité sur Achab. Mais Jézabel elle-même, et les chapitres qui précèdent et aussi ceux qui suivent montreront l'influence détestable de cette femme, a eu une influence vraiment très mauvaise sur Achab. Et donc, ça nous est en avertissement, me semble-t-il, sur le fait que parce que des gens nous sont proches, nous pouvons être incités à aller dans une direction qui n'est pas forcément celle de Dieu. Une autre mauvaise influence, c'est celle de Jézabel sur les anciens et les magistrats de Jisréel. Remarquez comment le texte est tourné. Les hommes de la ville de Naboth, ce ne sont pas les hommes de Jisréel, certes, ce sont les hommes de Jisréel, mais l'auteur prend le soin de tourner les choses ainsi. Les hommes de la ville de Naboth, c'est-à-dire ceux qui avaient vécu avec Naboth pendant des années, qui avaient vu cet homme, qui était sans doute un homme pieux et droit, comment il se conduisait, c'est ceux-là même qui, parce qu'ils ont peur des autorités, parce qu'ils ont la trouille de Jézabel, on peut les comprendre aussi, mais qui n'hésitent pas à aller tout droit. Et quand on lit le texte, on voit dans quelle façon ils ne réfléchissent pas, ils font ce que Jézabel dit, ensuite ils font le rapport, et puis voilà. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de réflexions après la Seconde Guerre mondiale pour savoir comment avait-il été possible que la Shoah et toutes les horreurs qui s'y sont déroulées aient pu être mises en œuvre par des, entre guillemets, braves gens qui n'ont eu comme justificatif qu'après de dire « je respectais les autorités ». Certes, nous devons le respect aux autorités, mais sous la réserve d'Actes 5, verset 29, « mieux vaut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Et en particulier quand il s'agit d'actes directement contraires à la pensée de Dieu, tuer le sang innocent, comme c'était le cas pour Naboth, faisons attention à ce que nous ne soyons pas influencés négativement. D'autant que ce qu'il faut bien voir, c'est que les hommes de la ville de Naboth agirent comme Jézabel leur a fait dire, qui étaient ses concitoyens, mais il faut aller jusqu'au chapitre 9 du second livre des rois et au verset 26 pour voir que non seulement Naboth est mort, mais aussi ses enfants, ses fils. Donc peut-être sont-ils allés même au-delà de ce que la lettre de Jézabel leur avait demandé de faire. Parfois, on peut être plus royaliste que le roi pour montrer qu'on est bien dans la vie. Avant de revenir au chapitre 21 pour d'autres axes de leçon, j'aimerais dire un mot du chapitre 22 et donc de cette nouvelle période de bataille. Il y a eu une période de paix pendant à peu près 3 ans entre la Syrie et puis le royaume d'Israël. Mais ensuite, il y a eu une nouvelle guerre avec la Syrie, et cette fois-ci, c'est les deux rois, le roi du nord, Akab, le roi du sud, Josaphat, qui était donc ce qu'on appelle aujourd'hui des compères, puisque la fille de l'un avait épousé le fils de l'autre, qui se mettent ensemble pour aller récupérer une ville, Ramoth de Galaad. Parce qu'il faut bien voir que Akab, il s'était fait entrepaouter par notre ami Ben-Hadad, puisqu'il lui avait dit « je vais te rendre les villes ». Trois ans après, le constat est fait que, ben non, Ramoth de Galaad est toujours sous l'influence syrienne. Et donc Akab se dit, ben, est-ce que tu veux venir avec moi attaquer Ramoth de Galaad? Parce que ça nous appartient. Et Josaphat répond au roi, toi et moi, mon peuple et le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. Ah ben si, parce que d'un côté, il y avait ce roi dont on vient juste quelques versets avant, hein, puisque début du chapitre 22, fin du chapitre 21, il n'y a eu aucun roi aussi mauvais qu'Akab. Et Josaphat, qui est un roi pieux, ça on le verra après, dit bah, finalement, on est exactement les mêmes. Et donc là aussi, cette compromission de Josaphat nous montre que nous pouvons avoir des amitiés, des fausses amitiés, des amitiés qui nous amènent à être influencés dans le mauvais sens. Et c'est bien ce qui va arriver à ce pauvre Josaphat ici. Alors quand même, parce que Josaphat est là et qu'il faut garder un peu les apparences, on va faire venir les prophètes hein, pour savoir si ça va bien se passer, cette bataille. Et Josaphat dit au roi d'Israël, consulte donc maintenant la parole de l'Éternel. Alors le roi d'Israël assemble les prophètes au nombre d'environ 400. Donc on voit qu'il y avait quand même encore 400 prophètes. Bon, et il sait aussi les trouver. Donc c'était des prophètes... peut-être un peu à l'instar du vieux prophète de Bethel. Vous vous rappelez, on avait lu cette histoire il y a quelques mois, ce prophète qui était dans l'endroit même où Jéroboam Ier avait érigé le veau en termes d'idole. Donc 400 prophètes, et il leur demande, dois-je attaquer Ramoth de Galaad ou dois-je y renoncer? Et il répond, monte-y et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Il y a les deux trônes. L'ami Josaphat est quand même un peu circonspect face à cette réponse tellement unanime. Et il dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Peut-être il a une petite suspicion pour que nous puissions le consulter. Et alors c'est là que Akab lui dit, oui, il y a un autre, mais celui-là je ne l'aime pas, parce qu'il dit toujours des méchantes choses sur moi. C'est Miché, fils de Gimla. Et c'est lui qui fait venir, etc. Alors, je ne vais pas détailler ce récit, c'est assez comique d'ailleurs, hein, parce que Miché a beaucoup d'humour, hein, mais il est aussi assez incisif. Mais juste pour indiquer le poids du groupe, les 400 prophètes, eh bien, c'était difficile si on était le 398e de dire, ben non, les autres, ils ont raconté n'importe quoi, je ne suis pas du tout certain que l'Éternel va t'aider et va livrer... Ramoth de Galaad entre les mains du roi. Et donc on voit aussi que parmi les mauvaises influences que nous pouvons subir, il y a le poids du groupe. C'est très difficile de se démarquer. Très difficile de se démarquer quand tout le monde fait chorus pour aller dans la même direction qui n'est pas celle que Dieu voudrait que nous prenions. Alors, cette résistance, la leçon morale aussi, j'aimerais la prolonger par la résistance aux mauvaises influences. Et cette résistance, on la voit à la fois, me semble-t-il, chez Naboth et chez Miché. On voit Naboth qui est ferme. Alors, il y aurait beaucoup de détails dans le texte, parce qu'il est parlé du roi de Samarie qui, en fait, avait un palais à Jisréel, et donc il avait accumulé ce que le Deutéronome ne voulait pas qu'il fasse, maison et maison, palais avec palais. Mais Naboth répondit à Akab que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quelle est la résistance, cette fermeté de Naboth? Pourquoi elle se montre cette vigne? Après tout, l'offre d'Akab était plutôt sympa, il pouvait monétiser sa ville... où il pouvait, sa vigne, où il pouvait en avoir une autre. Mais il était bien stipulé, Lévitique chapitre 25, et puis si on regarde aussi Nombre 36, que l'héritage ne devait pas passer d'une tribu à l'autre, et il devait rester dans la famille. D'où d'ailleurs ce principe de l'année du jubilé, où les terres revenaient à la famille de départ, etc. Et il faut bien voir que Naboth, ici, se place sur un plan spirituel, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de tes ancêtres. Et on voit d'ailleurs qu'après, Akab, lui, s'en fout que ce soit de l'Éternel, parce qu'il dit à Jézabel, c'est Naboth qui ne veut pas me donner sa vigne. Il oublie de mentionner que la raison pour que Naboth lui a donnée, pour laquelle il ne veut pas lui céder sa vigne. Et donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme d'héritage ? Alors aujourd'hui, nous n'avons pas une vigne qu'on puisse nous prendre. Mais il me semble que derrière ce terme d'héritage, eh bien, on peut voir des choses assez diverses. Ce qui est très frappant, c'est qu'il y a un certain nombre de textes dans l'Ancien Testament où il est dit que l'Éternel est l'héritage des siens. Ézéchiel, par exemple, 44, verset 28, mais il y en a un certain nombre. C'est-à-dire qu'en fait, derrière cet héritage, on peut voir, c'est Dieu qui est notre héritage. Et donner finalement l'héritage de nos ancêtres, et je crois qu'on est un certain nombre ici dans cette salle à avoir aussi été enseigné par rapport à Dieu par nos parents, nos grands-parents, par la grâce de Dieu, eh bien donner ça, c'est finalement abandonner le Dieu qui est lui-même notre héritage. Et c'est ce que Dieu ne veut pas que nous fassions. Et donc derrière cette notion d'héritage, il me semble qu'il y a toute cette relation, puisque nous voyons à la fois que Dieu est l'héritage du peuple, mais le peuple aussi est l'héritage de Dieu. On a aussi ce terme d'héritage qui est employé dans l'autre sens. Donc vous voyez ce terme héritage qui est employé dans ces deux sens, Dieu est mon héritage et moi je suis l'héritage de Dieu, c'est un terme en fait de relation. Et la fermeté de Naboth, c'est qu'il ne veut pas laisser sa relation avec son Dieu, qui se concrétise de façon historique, parce qu'on est dans l'ancienne alliance, par cette vigne, mais qui pour nous, si on le prend dans un sens spirituel, veut dire qu'on ne veut pas que la relation que j'ai avec le Seigneur eh bien, soit bradée. Je ne veux pas la mettre à mal, quel que soit le prix à payer. Et le prix à payer, pour Naboth, il est très fort. C'est la mort. Alors Christelle, tu as prié tout à l'heure pour nos frères et sœurs persécutés. Et peut-être qu'aujourd'hui, en ce dimanche, Nigeria, Érythrée, Corée du Nord, je ne sais pas. Eh bien, il y aura un frère, Naboth, qui va payer le maintien de sa relation avec le Seigneur par sa vie. Que nous en soyons conscients. Alors, grâce à Dieu, je ne pense pas qu'aucun d'entre nous ait peur de finir le jour lapidé ou tué dans une geôle horrible d'un pays opposé à la foi chrétienne ou sous les coups d'un groupe terroriste. Mais, qu'est-ce que ça veut dire, la mort ? Eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle des morts sociales. Et ça, c'est un point peut-être particulièrement sensible pour les plus jeunes, c'est qu'il y a des choses auxquels nous devons renoncer pour maintenir cette relation d'héritage réciproque avec le Seigneur, et ça peut vouloir dire une mort sociale, une ostracisation, on met de côté, on lapide pas physiquement, mais on se moque, on met de côté, ou que sais-je. Et quant à la fermeté de Michée, ah, Michée, il faut bien voir que le messager, là, le messager d'Akab qui va le chercher, lui dit, écoute, je vais te donner un bon conseil, hein, les 400, ils ont été unanimes, donc s'il te plaît, fais un petit effort cette fois-ci et va dans leur sens. Et Michée dit, l'Éternel est vivant, je communiquerai ce que l'Éternel me dira. Et puis, il est confronté par Sédécias, fils de Kenaana, qui s'approche, qui le frappe sur la joue, etc. Le roi demande d'arrêter Michée et de le mettre en prison et de le nourrir du pain et de l'eau de misère jusqu'à ce que je revienne en paix. Donc là, Michée va être mis de côté, va être mis en prison. Et donc, c'est une forme un peu atténuée de ce qui est arrivé à Naboth, puisque finalement, sa fidélité, sa fermeté l'a conduit en prison. Ben, là aussi, littéralement, on peut penser au nombre de chrétiens qui sont emprisonnés dans tant de pays du monde. Mais on peut penser aussi à ceux qui, peut-être parmi nous, eh bien, sont dans une situation où ils se sentent peut-être en prison parce qu'ils ont voulu rester fermes dans leur foi et dans leur maintien de la relation avec le Seigneur, et que, eh bien, ça les a conduits à être rejetés, à être mis dans une situation difficile. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand j'ai fait mon introduction au Livre des Rois, j'ai dit qu'on pouvait regarder sous trois angles. Un angle, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'homme, avec des leçons morales, c'est ce que nous venons rapidement d'esquisser. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu, avec des leçons plus théologiques, et qu'est-ce que ça nous apprend aussi sur Jésus-Christ et l'espérance qui doit être mise en œuvre. Alors, par rapport à Dieu, ce que je trouve très frappant, c'est la fin du chapitre 21 que nous avons lu, cette histoire avec Naboth. Pourquoi c'est très frappant? Parce qu'on voit que Élie prononce de la part de Dieu le jugement sur Akab, et que ce jugement va avoir lieu. Déjà, Dieu l'avait annoncé à la fin du chapitre 20, et on voit Akab, au lieu de se repentir, il est fâché. Et puis au début du chapitre 21, quand il n'a pas la vigne de Naboth, il est fâché aussi. C'est comme s'il mettait sur le même plan son sort final et puis son caprice d'un moment. Là aussi, je pense que c'est une intention de l'auteur que d'utiliser les mêmes termes. Mais la sentence tombe et elle est terrible puisque le malheur va venir sur Akab. Mais ce qui est très frappant aussi, c'est la fin du chapitre. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie de Tishbite. « As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa famille. » Et là, vous aurez remarqué que Élie, qui est le prophète plutôt du jugement, Élie le Tishbite, est appelé deux fois le Tishbite, à la fois pour annoncer le jugement, mais aussi quand Dieu lui demande d'être témoin de la repentance et de la grâce qu'il va donner, puisque à cause de cette repentance, cette humiliation d'Akab, eh bien Dieu va sursoir au jugement et il ne va pas anéantir du vivant d'Akab toute sa famille, il le fera du vivant du fils d'Akab, en l'occurrence de Joab. Donc on voit que finalement Élie lui aussi a à prendre la grâce. Et c'est pour ça que Élie le Tishbite, c'est dit deux fois, pour le message de jugement qu'il a délivré et aussi pour le message de grâce. Au chapitre 17 de 1 roi et au chapitre 1 de 2 rois, il va aussi être appelé Élie le Tishbite des deux côtés pour annoncer encore le jugement, le feu qui va descendre des deux côtés. Mais là, en l'occurrence, eh bien, il a aussi à prendre la grâce. Et donc nous voyons qu'il coexiste, si j'ose dire, en Dieu, à la fois le jugement et la grâce. On ne peut pas voir Dieu comme qu'un Dieu de jugement. Il faut aussi le voir comme un Dieu de grâce. On ne peut pas le voir que comme un Dieu de grâce, il faut le voir aussi comme Dieu de jugement. Je rappelle que l'Épître aux Romains commence par « La colère de Dieu est annoncée », chapitre 1, verset 18. Mais maintenant, chapitre 3, verset 21, « La grâce de Dieu aussi est annoncée ». Les deux sont présents. Parce que Dieu, face au péché, est à la fois en colère et donne la ressource. Et c'est ce que nous voyons au travers de cette fin du récit de Naboth. Et puis, j'aimerais aussi donner pour terminer sur une leçon que j'appelais christologique, la lignée qui continue. Il y a un truc vraiment bizarre dans la façon dont les choses sont agencées, parce que Josaphat est introduit au début du chapitre 22 avant qu'on ait sa notice. Vous savez que normalement, il était marqué « et machin mourut, et son fils régna à sa place, il régna X années, il était le fils de machin, et il régna à Jérusalem pendant X années ». Eh bien, cette notice sur Josaphat, nous l'avons bien, mais nous l'avons après qu'il a été introduit au chapitre 22, verset 3, au début du chapitre 22. On voit Akab qui s'allie avec Josaphat, et Josaphat, il tombe de nulle part, puisqu'il n'en est question formellement qu'à la fin du chapitre 22, à partir du verset 41. Donc pourquoi l'auteur de l'Épître, du Livre des Rois a-t-il fait cela? C'est bizarre comme façon de procéder. Ce n'est pas sa manière habituelle. Eh bien, justement, c'est parce que, à mon avis, et là je reviens à mon plan, il voulait montrer ça. Il voulait montrer qu'en fait, ici, la lignée à la fin, il est. Rappelez-vous ce que Dieu avait dit à Élie. Tu vas oindre quelqu'un à la place d'Akab. Donc la lignée s'interrompt. Tandis que là, la lignée continue. Et puis, il y a une petite histoire sur le règne de Josaphat. Il est question de bateaux qu'il a envoyés, et puis les bateaux les bateaux ont fait naufrage. Et alors, chose très bizarre aussi, c'est que quand on lit dans le livre des chroniques, alors j'avais promis de ne pas aller trop souvent dans le livre des chroniques, mais là j'y vais quand même une fois, c'est que dans le livre des chroniques, on s'aperçoit qu'en fait, ces bateaux, c'est avec Akasia, donc le fils d'Akab, que Josaphat va faire ça. Et va faire cette première expédition. Mais il n'en est pas question ici. Il est question d'une seconde expédition que Akasia voudrait relancer. Veux-tu que mes serviteurs aillent avec les tiens sur les bateaux? Mais Josaphat refusa. Et puis aussi, ce qui me frappe aussi, c'est qu'ici, ce qui est dit de Josaphat, c'est qu'il va débarrasser le pays des prostituées, il va avoir une action purificatrice, mais cependant un petit peu imparfaite. Tandis que l'action purificatrice du chapitre 18 semble avoir été très forte, mais finalement, elle a été plus qu'imparfaite, puisque après, toutes les choses vont continuer. Donc, vous voyez, c'est comme si l'auteur du Livre des Rois voulait nous dire, bah oui, mais attendez, si dans le Royaume du Nord, les lignées s'interrompent les unes à la suite des autres parce qu'ils sont tous mauvais, dans le Royaume du Sud, la promesse faite à David qu'un jour, il y aurait un fils de David qui régnerait pour l'éternité, eh bien, cette promesse continue, la lignée continue. Et puis aussi, et je terminerai là-dessus, la dernière leçon que je trouve dans cette portion, c'est l'ombre du pardon grâce au sacrifice. Parce que, quand on lit le récit du meurtre de Naboth, on ne peut pas ne pas être frappé par un certain nombre de détails. On voit Naboth qui obéit à la parole de Dieu. On voit qu'on met en face de Naboth deux vauriens qui témoignent contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Et 900 ans après, eh bien, dans un procès tout aussi inique, peut-être même encore plus, on va mettre deux témoins devant le Christ, qui vont dire « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours », ce qui sera interprété par le Sanhédrin comme étant un blasphème vis-à-vis de Dieu lui-même. Et puis, Naboth va être conduit pour être lapidé, et il va être conduit pour être lapidé hors de la ville. Et on sait que Jésus a été aussi crucifié hors de la ville. Et la parole de grâce que nous trouvons dans ces chapitres, c'est justement à la fin de ce chapitre où Akab déchire ses habits, se couvre d'un sac, etc. Et la parole est adressée à Élie le Tishbite, je l'ai déjà dit. « As-tu vu qu'Akab s'est humilié devant moi ? Eh bien, parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur durant sa vie. » Il faut bien voir qu'Akab avait accueilli Élie quand il s'est présenté devant lui. « Es-tu là, mon ennemi ?» Et il y avait effectivement cette inimitié entre Élie, le représentant de Dieu, et Akab. Mais cette inimitié, nous savons que c'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ qu'elle a été abolie. Alors bien sûr, Naboth, c'est pas grâce à lui que Dieu peut accorder le pardon à qui que ce soit, y compris à Akab au premier chef. Mais il me semble voir déjà, de façon très ténue, une petite ombre se dessiner par rapport à cette possibilité de repentance. Et puis, cette possibilité de repentance, ce qui me semble touchant, et je terminerai par là, est-ce que c'était une vraie repentance? Sans doute pas, puisqu'on voit qu'au chapitre 22, Akab, il continue comme avant, il ne veut pas écouter la parole de Dieu par Michée, etc. Donc, c'était peut-être qu'un feu de paille, malheureusement temporaire. Mais la façon dont les choses sont tournées, et tu as vu Akab, ce qu'il a fait? Tu as vu comme il s'est humilié? C'est comme si Dieu était tout réjoui de voir qu'enfin, il y a une petite étincelle chez Akab. Et c'est cela la grâce qui nous est proposée, chers amis. Et nous avons besoin de nous réjouir de toute étincelle de grâce. Est-ce que ce sera un feu de paille temporaire comme pour Akab, ou est-ce que ce sera quelque chose de durable? Ça, Dieu le sait. Mais réjouissons-nous et faisons comme Dieu qui nous dit, mais tu as vu cette personne-là, l'attitude positive qu'elle a, de façon à ce que nous puissions nous réjouir de la grâce de Dieu, parce que le pardon est possible grâce au seul sacrifice qui a été offert, le sacrifice parfait, dont la mort de Naboth n'est qu'une très légère anticipation.